Afin de pallier à la fermeture des écoles, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que ses services informatiques étaient prêts pour l'éducation à distance de millions d'élèves et a annoncé un ambitieux programme appelé « La Nation apprenante ». Pour parler de la nation apprenante et de comment répondre à ses besoins en temps de crise, nous recevons Pouyou, porte-parole de Framasoft, blogueur fluo et ex-collègue de micro sur Radio FMR.
CPU, carré, petit, utile.
Salut Zaskrich.
Et merci de nous recevoir par satellite en charognant le Wi-Fi du voisinage. Pouyou, comment as-tu connu Framasoft ?
Alors j'ai connu Framasoft, oula, ça nous rajeunit pas tout ça. J'ai connu Framasoft sur Internet, tout simplement parce que je craquais des logiciels privateurs et que sur la mule, quand tu craquais des logiciels privateurs, tu recevais des logiciels gavés de pubs, de machins. Enfin, il y avait plein de malware. Alors que si tu allais prendre des logiciels libres, ça marchait mieux, c'était plus rapide et tout ça. Et donc du coup, j'ai commencé à me mettre au logiciel libre parce que ça marchait mieux, tout simplement. Et du coup, j'allais sur l'annuaire du logiciel libre, c'était framasoft.net. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître. Et puis du coup, dès qu'il y avait un ordinateur qui s'installait dans la famille, j'utilisais Framapack et on pouvait installer comme ça plein de logiciels libres d'un seul coup, avec un seul exé sous Windows, parce que ma famille, ils achetaient des ordinateurs à Carrefour avec Windows installé obligatoire dessus, quoi. Et voilà, j'ai commencé à connaître Framasoft comme ça. Et puis j'ai commencé à écrire des romans sur un blog et puis un jour je me suis dit Framasoft, ils ont aussi un blog qui parle de culture libre et de plein de choses libres, je vais leur dire que mon roman je l'ai mis dans le domaine public et puis peut-être que ça va les intéresser, qu'ils vont en parler, que ça fera venir des gens sur mon blog. Voilà. Et c'est là que Framasoft m'a répondu: coucou, on a une maison d'édition, on n'a jamais fait de roman et on a envie d'en publier un, est-ce que ça t'intéresse passer en comité de lecture? Et du coup, je suis rentré à Framasoft par le projet Framabook, qui est une maison d'édition de cette association. Et c'est comme ça que j'ai connu l'association intimement, on va dire.
Framasoft, à la base, c'est deux profs.
Oui, c'est trois plus exactement. Mais...
Ah merde, j'aurais oublié le troisième, oui, forcément.
Voilà, c'est pas grave, mais dans la légende, on dit toujours il y a deux profs au Framasoft, Frama, français, mathématiques. C'est de là que vient le mot Frama. Et puis Soft, parce qu'à l'époque, Microsoft, c'était le grand méchant du logiciel, du numérique. Pour faire la nique à Microsoft, on a fait Framasoft, quoi, tu vois. Donc c'est l'idée. Maintenant, Framasoft, si on a nos racines dans l'éducation nationale, et qu'on a bien connu l'éducation nationale et que certains de nos membres sont encore au sein de l'éducation nationale, on se revendique aujourd'hui de l'éducation populaire parce que, on va peut-être en parler, mais on a tourné le dos en quelque sorte. Alors non pas à l'éducation nationale, ça me ferait chier de dire ça parce que les profs et le personnel encadrant et les élèves font des choses formidables, mais par contre, à la hiérarchie de l'éducation nationale, ouais, ça, on a fermé la porte.
Framasoft a fait est parti sur une initiative qui était dégooglons Internet et donc essayer de trouver un maximum de projets alternatifs. Et de mettre plein de reprendre en fait plein de logiciels qui existaient déjà en service, SaaS, c'est-à-dire prêts à être utilisés par l'utilisateur sur des clouds, c'est-à-dire des ordinateurs qui appartiennent à d'autres personnes et qui donc sont susceptibles de faire plein d'autres choses dessus. Donc vous avez fait pas mal de services prêts à être déployés, mais en soit, c'était d'abord chez vous qu'allait tester la plupart des gens pour voir ce que ça donnait. Avant le confinement, avec un grand C, combien aviez-vous de serveurs ?
Oula, alors grosso merdo, une cinquantaine de serveurs répartis en 83-84 VM, pour machine virtuelle, c'est-à-dire que sur une seule machine physique, un ordinateur, on peut créer plusieurs ordinateurs de manière logicielle, faire croire à cette machine qu'il y a un, deux, trois, plusieurs ordinateurs sur cette machine. Donc en fait, il y avait 50 serveurs physiques que nous louons en Allemagne, chez Etzner, pour être précis. Même si on n'a pas d'action chez eux.
Oui, mais ça s'appelle un placement publicitaire.
Non, pas du tout en plus. Putain, j'aimerais bien toucher de la thune de Etzner, du coup, ce serait cool, quoi. Tout ça pour dire que on avait ça, sachant que dégooglisons Internet, vraiment le principe même de dégooglisons Internet, c'était de, d'une part d'informer, c'est la merde, les GAFAM, les géants du web.
C'est pas sympa de dire du mal quand même de Quant. Hein.
Bref, tous ces géants, Quant n'est pas un géant, il aimerait le devenir, c'est ça qui est pire. Mais bon, bref, c'est un autre détail. Où il va se faire bouffer, là, moi, bah alors attention, bonjour, Pouillou sort sa boule de cristal qui ne vaut rien, mais Quant risque de se faire bouffer soit par Microsoft, soit par Huawei, soit par les deux, on ne sait pas. Voilà.
Retrouvez ses prédictions tous les dimanches sur le marché de Saint-Aubin.
Anyway, tout ça pour dire que, en fait, au départ, c'était de dire, voilà, c'est gravissime ce qui se passe. Ces géants du web, quel que soit, enfin, Google n'est qu'un symbole, parce que tu coupes un Google, il y en a trois qui repoussent. Mais c'est gravissime ce qui se passe parce qu'ils colonisent notre Internet. Donc, sauf que quand tu dis ça, quand tu parles de cette colonialité, parce qu'on va quand même laisser le colonialisme aux personnes qui en ont souffert, qu'est-ce qu'on fait? Et or, il y avait des logiciels libres qui existaient, mais quelqu'un qui me disait, mais moi, qu'est-ce que je fais pour remplacer mon Google Docs? Ben écoute, c'est super simple, tu prends Etherpad, tu le mets sur un serveur, et là, j'ai perdu 99% des gens. Donc nous, on les a mis sur nos serveurs, comme tu as dit. Mais on les a mis sur nos serveurs en disant, coucou, venez essayer chez nous, bonjour, renseignez-vous sur nous, nous sommes une asso loi 1901. Framasoft, c'est une asso de 35 membres. Ton club de bridge, ton club de théâtre ou de karaté a plus de membres que Framasoft, très probablement. 35 membres, 9 salariés. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est quand même plus qu'en général un club de bridge. Et on est une asso, donc vous venez essayer chez nous, mais le but, c'est que vous deveniez indépendant, que vous autonomisiez, puisque ces logiciels qu'on a mis sur nos serveurs, d'autres peuvent le faire. Et donc, la troisième étape de dégooglisons, c'est l'étape essentielle, c'est celle de essaimer, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, une fois qu'ils ont essayé les services chez nous, qu'ils trouvent « Ah bah ouais, c'est cool, oui, ça me convient », ou « Non, ça me convient pas », bon ben, c'est pas le moment, c'est pas grave. Mais si ça te convient, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu l'adoptes? Alors là, il y a tout un tas de solutions auxquelles on a contribué. Pour trouver ça, je pense qu'on va en parler ensuite. Mais vraiment, l'objectif, c'est de dire que on est une asso. Notre budget annuel, c'est de l'ordre de 500 000 euros. J'avais fait le calcul, si le chiffre d'affaires annuel de Google, c'est 24 heures, tu vois, c'est une journée. Framasoft, je sais plus, on est à quelques minutes, à quelques secondes. Enfin, c'est rien du tout, quoi. On ne va pas dégoogliser à nous seuls, pas une asso. C'est hors de question. Et en plus, on n'a pas envie de grandir en mode start-up qui veut devenir licorne. C'est pas notre délire, quoi, tu vois.
Donc, alors, voilà. Pourquoi t'écoutes CPU?
Parce que j'ai du goût, monsieur.
Oh, ça, c'est un coup bas. Tout ça pour dire, effectivement, donc, d'ailleurs, vous êtes à la base du mouvement chaton, mais ça, on va pas y venir, puisque l'idée, c'était quand même de faire une émission complète sur les chatons. Ça, on l'a programmé depuis 2 ans. Et bon,
On peut juste dire en 2 mots que, tu vois, on a contribué à des solutions d'auto-hébergement de type Why You Know Host ou aussi de type Nextcloud. On a contribué à un collectif qui s'appelle Chaton, qui est un collectif qui fait la même chose que nous, qui dégooglise, utilise des logiciels libres pour dégoogliser sans faire de pub. Voilà, mais au lieu de faire tout chez Framasoft, bah c'est comme un réseau d'AMAP, sauf que ces AMAP, au lieu de donner du fruit et légumes bio et responsables, elles donnent du service numérique bio et responsable. On a participé à plein de choses comme ça. On a aussi publié, bien sûr, tous nos tutoriels, toute notre documentation pour comment est-ce qu'on a fait pour installer ces choses-là sur nos serveurs. Il y a toute cette démarche de dire... On est une énorme expérimentation à porte ouverte, mais c'est une expérimentation que l'on veut qu'elle soit reprise et adaptée, améliorée.
Et on redonnera justement les liens vers You Know Host, les chatons et tout ça sur la page web de l'émission cpu.pm/0134. Donc, vous aviez une 50aine de serveurs, arrive le confinement, vous doutiez quand même que ça allait, que vous alliez avoir une vague de trafic, qu'il y a plein d'entreprises, de PME, d'indépendants, d'associations, de petites municipalités qui allaient avoir besoin d'échanger des données rapidement et qui allaient se dire « Ah ouais, mais attendez, il y a le truc là qui est monté, là, collectif, solidaire, machin, allons-y dessus ».
Alors, on s'en doutait, oui et non. Mais bon, on a quand même eu, en fait, pour nous, de notre point de vue, on a eu 2 vagues, en fait. La première vague qu'on a eue avant le confinement français, quand notre président allait au théâtre et que tout le monde disait qu'il fallait continuer l'école et tout ça, il y avait quand même tous les Italiens et les Espagnols qui étaient absolument aux abois, qui étaient confinés, où là, du coup, d'un coup d'un seul, on a eu typiquement notre solution de visioconférence qu'on appelle Framatalk et qui est basée sur le logiciel Jitsi Meet. Framatalk, donc, où on est passé de 2000 visioconférences par jour à 16 000. Donc, fois 8.
Ouais.
Comment t'expliquer que ça pique? Là, je t'ai donné l'exemple de la visioconférence, mais il y a aussi les pads qui sont des feuilles d'écriture collaborative un peu alternatives à Google Docs ou à Word 365 en ligne. On voit bien aussi que on a un support et puis on reçoit des tickets, donc des demandes d'aide pour l'utilisation. Je te le fais au pifomètre, hein, vraiment, mais à la grosse louche, 90% de notre support se fait en français, puis il y a 10% qui se fait en anglais, et les rares personnes qui nous font un message en allemand ou en italien, bon, bah, on utilise un traducteur automatique et puis c'est tout, quoi, tu vois.
Ouais.
Et là, d'un coup d'un seul, on commence à avoir des tonnes et des tonnes de demandes de support en italien. Ok, qu'est-ce qui se passe, quoi? On voit bien le truc. Donc, du coup, Jitsi, Framatalk a besoin d'aide, Framapad a besoin d'aide. Le salarié qui, chez nous, d'habitude, développe un logiciel qui est une espèce d'alternative à YouTube qui s'appelle PeerTube, s'arrête de développer PeerTube et puis vient prêter main forte à l'équipe technique d'administration système pour essayer de renforcer les serveurs. Donc, on prend des plus gros serveurs, des plus grosses machines. On commence à essayer d'optimiser l'installation des logiciels et tout ça, à voir que les documentations ont été écrites de manière bénévole parfois ou parfois un peu hâtivement, et donc on essaie d'y contribuer à ces documentations en donnant nos méthodes d'optimisation, etc. Bon, bref, on a un petit coup de bourre avec la vague italienne et espagnole, mais on s'en sort, quoi. Voilà, ça nous coûte un peu plus cher, c'est pas si grave, on s'en sort. Et là arrive le confinement.
Quand les services du ministre de l'Éducation nationale a renvoyé professeurs et scolaires vers vos services, vous deviez être heureux quand même d'une telle reconnaissance au niveau national par le gouvernement français.
Non, clairement.
Pardon.
Pas. Et puis, mais bien sûr que non.
La France, monsieur.
La France, quelle honte! Alors là, je parle en mon nom et pas au nom de Framasoft, mais quelle honte que la France n'ait pas mis en place les moyens numériques qu'elle devrait avoir. Et là, du coup, je reprends ma casquette Framasoft parce que je ne sais pas si on utiliserait le mot honte collectivement, mais par contre, nous sommes tous et toutes d'accord pour dire que nous savons que le ministère de l'Éducation nationale a les moyens financiers, les moyens humains, les moyens techniques, les savoir-faire, les compétences pour installer ce que nous avons fait sur nos serveurs, l'installer à disposition de ces 800 000 enseignantes et enseignants et de ces 12 millions d'élèves. Quelle honte que une petite partie de l'Éducation nationale nous recommande à nous, association à 1901, avec 500 000 euros de budget face au ministère de l'Éducation nationale, c'est 72 milliards d'euros de budget. Quelle honte! Ça fait des années qu'on connaît la rengaine, ça fait des années. En 2016, nous avons écrit un article sur le Framablog qui s'appelle « Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale ?» Et où, parce que c'était juste après les accords, la ministre de l'Éducation nationale, à l'époque c'était Madame Najat Vallaud-Belkacem, elle avait signé un accord avec Microsoft.
Je croyais que c'était parce qu'il n'avait que du Lipton à proposer.
Oui, bon, bref, c'est pas ça. C'est parce que Microsoft offrait gracieusement 13 millions d'euros de trucs pour les collèges et tout ça. Tu parles, ils enfonçaient les collèges à 13 millions d'euros dans des produits Microsoft et ils pompaient les données de nos gosses grâce à 13 millions d'euros. Enfin, c'est un petit peu comme si McDo offrait 13 millions d'euros de frites aux cantines scolaires, quoi. Mmh. Voilà. Est-ce qu'on accepterait que nos gosses soient obligés de bouffer McDo à la cantine parce que McDo essaie de leur refourguer leur première dose, en fait, hein. C'est la bonne vieille technique du dealer. La première dose est gratuite. On la connaît. Bon, bref. Et donc là, on a fait un article rappelant l'historique. Et le problème, si tu veux, c'est qu'on se rend compte que dans les plus hautes sphères du ministère de l'Éducation nationale, la mentalité est celle d'un consommateur de services numériques, ils consomment, et quand ils nous reçoivent, ce qu'on entend, et je te jure que c'est ce que nous avons entendu texto, c'est, écoutez, c'est formidable ce que vous faites, le logiciel livre, parce que nous, ça nous permet de mettre en tension les offres du propriétaire. Voilà. Là, en fait, je traduis pour les auditeurs qui connaissent pas, qui comprennent pas forcément le tenant et les aboutissants. Le logiciel libre, c'est des gens passionnés. C'est souvent des bénévoles. C'est des salariés qui arrachent leur salaire avec les dents parce que c'est difficile de le financer. Et souvent des bénévoles qui vont prendre du temps sur leur gosse, sur leur vie, sur leurs loisirs, etc. Parce qu'ils croient qu'on peut faire du logiciel par les gens et pour les gens. Et cette personne-là nous dit « Merci parce que vous nous permettez d'avoir une ristourne sur Microsoft ». C'est un crachat à la gueule, quoi, tu vois. Et la personne ne s'en rend pas compte. Et à chaque fois, la réponse qu'on a, c'est « Mais si vous voulez qu'on considère les offres du logiciel libre par rapport à celles de Microsoft, faites des offres. » Parce qu'ils ne considèrent que le logiciel que comme quelque chose qu'ils consomment. Alors que le logiciel libre, si une volonté politique de faire du logiciel libre, ce serait de dire « Nous devenons acteurs de notre autosuffisance, de notre autonomie numérique. Nous devenons acteurs et nous contribuons, et notre contribution va profiter à nous et à tous, et nous allons profiter des contributions de tous. » Ça, ce serait de la volonté politique, ce serait de la vision à moyen long terme, ce serait formidable. Le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais fait ça. Pour juste rectifier, le ministère en lui-même de l'Éducation nationale n'a pas, à ma connaissance, recommandé les services Framasoft. Par contre, il y a eu un mémo ou une directive du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche mettant en valeur nos services. Puis, ils sont venus nous parler, on leur a dit « Stop, arrêtez, au secours, vous allez nous couler ». Donc, ils ont essayé de les mettre un peu moins en valeur, mais ils les ont pas enlevés. Bref, ils sont libres, ils sont libres. Parce que ça s'est passé au niveau du ministère. Par contre, évidemment, dans beaucoup d'académies et tout ça, comme on est connu, il y a énormément de dirigeants qui ont fait passer le mot que dans les solutions, vu que chez nous, ça marche plus, vu que dans les académies, ça marchait plus, vu que dans les services numériques de l'État, ça marchait plus, il y en a beaucoup qui se sont fait passer le mot « Vous avez plusieurs solutions ». Et dans les solutions, bien sûr, Framasoft était cité.
CCPU, l'émission confinée, programmée ubuesque, et nous sommes avec Pouillou de Framasoft pour parler de la gigantesque vague de nouveaux utilisateurs qu'ils ont réussi à avoir grâce au confinement et à nos amis des ministères de l'éducation nationale et de l'éducation supérieure. Bon, d'accord, oui. On a bien compris une chose. Ce qui agace quand même Framasoft, et tu l'as bien fait comprendre, c'est au niveau du budget. Ouais. Mais dans ce cas-là, si vous aurez aimé être payé, pourquoi ne vous voit-on jamais répondre aux appels d'offres publiques ?
Parce que justement, non, on ne veut pas être payé. Ce qui nous agace, ce n'est pas une question de budget. Mmh. Ce qui nous agace, c'est qu'à un moment donné, nous, ce que l'on veut, c'est du service public. Et on ne veut pas qu'une association ou que du privé, que la Startup Nation, compense le service public. Dans l'éducation nationale, comme on l'a dit, on connaît suffisamment bien, on a suffisamment de monde et d'amis ou de membres de nous-mêmes qui y sont. On sait très bien qu'il y a des talents, qu'il y a des savoir-faire. Sauf que ces personnes-là ne sont pas écoutées. On est sur un système qui a raté son virage numérique, mais aussi sur une hiérarchie qui, si elle dit oui à quelqu'un de volontaire et qui a une super idée et tout ça, prend un risque. Or, si elle dit non et continue dans le mode consommateur, là, il n'y a pas de risque. Forcément, ça favorise le fait de ne pas avoir de politique, mais de rester consommateur du numérique. Et ça, à un moment donné, il faut juste que quelqu'un pose ses gonades sur la table et dise « Stop, maintenant, on va faire en sorte de ne pas filer les données de nos profs et de nos gamins aux géants du web ou à des privés, quoi. Ça déjà, c'est catastrophique. Et d'autre part, ben, on va faire en sorte d'acquérir notre indépendance numérique. Moi, le jour où l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, etc., vient nous voir en nous disant, voilà, nous, on a tel projet d'autonomisation, de, je sais pas, de mise en place de PAD pour les écoles, etc. Est-ce que vous pouvez venir partager votre expérience? Mais on viendra avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Framasoft, on est une association et on souhaite le rester. C'est très étrange, hein, parce que je sais que dans le monde capitaliste dans lequel on vit, dans la culture capitaliste dans laquelle on vit, c'est très étrange de que quelqu'un dise, mais en fait, nous, on veut rester petit. On veut rester à taille humaine, à chaleur humaine. Très souvent, on explique aux gens, attendez, on a des projets, on fait des choses, mais si vous nous jetez plus d'argent à la figure, on n'ira pas plus vite, on n'ira pas plus loin. On ira plus longtemps, ça oui. On va continuer à vivre, Framasoft ne vit que par les dons. Hein. Mm-hmm. Mais il est hors de question qu'on recherche la croissance à tout prix. On veut juste continuer à faire ce que nous faisons. Faire ce que nous faisons, c'est aussi, du coup, ben, la question du modèle économique. Hein, tu parlais de pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire des dossiers de subs. Voilà, ben, notre modèle économique est pour l'instant, en tout cas, enfin depuis quelques années, celui du don. Il nous confère 98% des 500 000 euros de budget que nous avons chaque année. C'est du don, et c'est du don principalement de particuliers. Il y a deux, trois gros dons, mais c'est tout, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est indépendant, qu'on fait ce qu'on veut. Là, typiquement, le confinement, on a tout changé, on a tout chamboulé nos plans. Tout notre planning de l'année est chamboulé. Et ça, on peut se l'autoriser justement parce qu'on a cette liberté d'action.
Et justement, du coup, combien vous avez dû mettre en place de serveurs supplémentaires au bout de 15 jours, puisque donc nous enregistrons le 31 mars. Qu'est-ce que cela a comme implication réelle, directe et immédiate pour Framasoft, je veux dire, sur le bilan financier, c'est-à-dire sur le nombre de VM donc sur la facturation de ces VM?
Alors, on a la chance, on avait du budget et on avait prévu de toute façon du budget, plus de budget au niveau des serveurs, etc., etc. Les gens ont été généreux avec nous, donc on a de la chance, on avait un petit peu de coussin, quoi, de confort. Donc là, on a pu dire, ok, on dépense, on investit dans du serveur, on investit dans des choses comme ça, parce que ben, y a un besoin. Voilà, on a pas mal parlé de l'éducation nationale. Si à un moment donné, on a affiché sur nos services, gens de l'éducation nationale, abstenez-vous d'utiliser nos services parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens d'un ministère derrière eux. C'est pas pour rien. Je veux dire, quand tu as un CHU qui vient te voir et qui dit, voilà, on a des malades, des patients qui sont isolés et qui veulent pouvoir parler à leur famille, et c'est peut-être urgent qu'ils parlent à leur famille parce qu'on ne sait pas s'ils vont s'en sortir. Est-ce qu'on peut utiliser Framatalk? Oui. Et là, c'est notre devoir que Framatalk fonctionne. Tu comprends?
Oui.
Et donc, du coup, ben ouais, faire cours à 30 élèves en visio, est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce moment-là face à des patients qui veulent juste parler à leur famille, quoi? C'est affreux de devoir faire un arbitrage, mais on l'a fait. Bref, du coup, on a mis en place des serveurs supplémentaires. Alors, je n'ai plus le compte exact, mais il y en a eu au moins 8. Et c'est vraiment de la très, 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 très grosse puissance. Hein. C'est minimum des octocœurs, SSD, machin chose. Je ne sais plus, c'est du 36 ou 32 gigas de RAM, des grosses machines. Typiquement, Framatalk, donc la solution de visioconférence sur Jitsi Meet, le service fait travailler plusieurs machines. D'un seul coup, je crois qu'il y a 3 ou 4 machines directes, alors qu'avant il y avait une petite machine. Ensuite, avec les Italiens, on est passé à une grosse machine, et là on est passé à 3-4 machines directes. Pareil, on a investi du temps pour améliorer le code des logiciels Etherpad et MyPad, qui permet donc d'avoir le service Framapad, qui est cette page d'écriture en ligne. Et ces améliorations de code ont été reversées à la communauté, mais du coup ça va bénéficier à tout le monde, que ça marche plus vite, même s'il y a plein de personnes qui viennent sur le serveur. Donc on a vraiment tout chamboulé, et le plus gros changement, je pense que c'est au niveau de ce que Framasoft va faire à l'avenir, quoi.
Je cite Jean-Michel Blanquer dans Challenge de cette semaine. Il a fallu aussi faire face à des attaques informatiques multiples, notamment venues de Russie, mais nos pare-feux sont robustes. Et c'est donc ce qui expliquerait que les outils d'ENT, d'éducation nationale à distance, ne fonctionnent pas extrêmement bien. Alors, quelle est l'astuce secrète de Framasoft pour ne pas être visé par ces hackers russes, et peut-être même soviétiques?
C'est évident. Enfin, Christine Albanel l'a dit, c'est le pare-feu Open Office. Le fameux pare-feu Open Office. Non, mais franchement, en plus, je peux t'annoncer que Framasoft a eu des problèmes avec d'autres pays. Alors, d'une part, c'est quand même relativement assez facile de géobloquer certaines adresses IP, et nous l'avons fait quand nous avons eu des utilisations criminelles de certains de nos services qui semblaient être localisés au Vietnam.
On a déjà assez d'emmerdes avec la nation pangoline, n'en rajoute pas une guerre.
Je suis désolé. Bon, bref. Mais donc, du coup, on a géobloqué certains pays comme ça. Ça, c'est pas forcément très complexe. Bon, le coup des pirates russes, honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas à l'éducation nationale. Maintenant, ça fait un peu... j'ai pas rendu mon devoir parce que le chien a mangé ma copie, quoi, tu vois.
Tu veux dire que c'est éculé comme excuse?
Je cite un compte Twitter que j'aime beaucoup, là.
Enfoiré.
Oui.
Comment tu m'as cité? Ça m'apprendra à tester mes blagues sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux dire par là que l'excuse est à peu près aussi éculée que Sony qui se fait attaquer par la Corée du Nord? Bon.
Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je sais, c'est que je connais des gens qui travaillent dans les académies, dans les services informatiques. C'est même pas des membres de Framasoft dont je parle, tu vois. Et je peux te dire que clairement, ils n'étaient pas prêts pour le confinement et qui se sont pas préparés. Mmh. Et que même les personnes qui travaillent dans le numérique, là, ont du mal à télétravailler tellement leur infra est mal foutue. Mmh. Donc, en fait, aujourd'hui, mais il faut écouter, il faut juste aller interroger des gens qui travaillent dans les services numériques, des académies ou du ministère, juste écouter et poser des questions à vos profs en primaire, en collège, en lycée. Les outils informatiques qu'ils utilisent, c'est des outils mais de Windows 3.11 de cette époque-là, quoi. C'est vraiment, c'est indigent et c'est révoltant qu'on ait encore de tels outils, mais parce que, encore une fois, on a des gens à la base, des travailleurs et des travailleuses qui ont plein de compétences, qui ont plein de savoir-faire, qui ont plein de visions politiques. Et plus tu montes, et moins ces personnes-là sont écoutées, et plus ça devient la chienlit. Tant que personne ne s'occupe du problème, bah, t'as des gens à la base qui bricolent des trucs et qui essaient de faire des choses avec les moyens qu'ils n'ont pas. Quand ça, le problème commence à remonter un petit peu au niveau de la hiérarchie, alors à chaque fois, alors ça va être au niveau de l'académie, puis au niveau du ministère, à chaque fois c'est « vous arrêtez tout ce que vous faisiez, j'ai la bonne solution ». Non, c'est moi qui ai la bonne solution, donc vous avez renvoyé tout chez mémé. Et donc ça fout juste le bordel chez tout le monde. Mmh. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Mmh. Et quand tu entends que des gens, ils te disent « mais moi je demande que ça, de là en urgence installer un Etherpad, mais tu te rends compte, pour m'ouvrir une VM, faut que je fasse une demande, j'ai 3 semaines d'attente ».
Ah oui, mais c'est tamponné et double tamponné, c'est la procédure.
Mais voilà, c'est kafkaïen. Et donc, à un moment donné, si tu laisses pas les moyens à tes talents et à tes savoir-faire de faire le taf, bah forcément, le taf, il est mal fait. Forcément, les services, ils tombent et ils sont pas prêts. Mais clairement, pour moi, encore une fois, ma boule de cristal sur le marché Saint-Aubin, pour moi, c'est ils étaient pas prêts.
Est-ce que les services du ministère vous ont demandé de les aider à installer du C-H-A-T-O-N, du chaton souverain?
Alors là, je suis pas assez dans tous les échanges pour pouvoir le dire. Je sais en tout cas que il y a des personnes volontaires au sein des ministères, au sein des académies, pour justement faire en effet du chaton, c'est-à-dire pour faire de l'hébergement souverain, autonome et éthique. Il y a des initiatives, il y a des volontés. Malheureusement, ce sont les personnes qui sont les moins écoutées et ça a été d'ailleurs notre grande crainte. Au sein de Framasoft, quand on a mis les pieds dans le plat et qu'on a dit stop, une association d'Adinasson ne doit pas parer aux carences d'un ministère, on s'est dit est-ce qu'on va pas griller les personnes qui font le taf à l'intérieur, et on espère que au lieu de les griller, que ces personnes seront plus écoutées, parce que si vous voulez pas que des assos comme nous crient et hurle à l'indigence numérique de notre ministère et au scandale que c'est, ben, écoutez les personnes qui savent ce dont elles parlent. Vous avez les talents chez vous.
Pouillou, ça fait un bail, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait d'émission en duo ensemble. Ouais. Comment es-tu devenu porte-drapeau de Framasoft? Est-ce que le précédent
ça va pas, porte-drapeau.
Était... Est-ce que le précédent, il était pété?
Mais il n'y a pas de tête de gondole chez Framasoft, on veut pas de ça chez nous. Alors attention, on est tombé dans le panneau comme tout le monde à une époque et tout ça. Et justement, comme on a vu que le fait d'incarner un collectif, une association avec une seule tête, ben ça marchait pas forcément, ça coince à certains moments. Ben, du coup, on a révisé la copie. Donc non, je suis pas porte-drapeau de Framasoft. Comme je t'ai dit, je suis rentré à Framasoft en publiant mes romans dans la maison d'édition Framabook. Ben après, ça s'est fait un peu tout seul, c'est-à-dire que j'ai commencé à dire, on va sortir le Framabook. Ça vous dit pas de faire un communiqué de presse, un dossier de presse? Puis là, on m'a dit, on sait pas faire. Je fais, je vais bidouiller, je vais le faire. Et puis, du coup, j'étais toujours sur la liste. Et puis, après moi, ils sortaient une BD. Je leur fais, dis donc, je vous ai montré comment on faisait un communiqué, un dossier de presse. Ouais, mais on n'a pas le temps. Je vais le faire. Et puis, ils m'ont dit, viens. Et du coup, je suis devenu bénévole pour l'association. Et puis, à un moment donné, l'association a eu besoin d'une personne pour sa communication. Et, du coup, j'étais disponible et tout ça. Et j'ai été embauché. Et c'est comme ça que je suis devenu chargé de com, un des chargés de com de Framasoft. Mais sachant que on essaie vraiment de travailler en équipe, c'est-à-dire que par exemple, on a un trinôme avec Engie Gaudion et avec Pig, Pierre-Yves Gosset, pour tout ce qui est justement la stratégie, les partenariats, la communication, vu que tout ça se répond les uns aux autres et s'entremêle. Voilà, on a chacun et chacune nos acquaintances et nos domaines favoris. mais on essaie de vraiment travailler ensemble en trinôme sur ces points-là et avec tout le reste de l'équipe salariée et de l'équipe bénévole.
Et c'est sur cette magnifique histoire que nous refermons cette page magazine de ce journal, et donc la preuve que, une fois de plus, contribuer au logiciel libre peut se faire de mille et une manières et peut donc mener à un emploi en traversant en face. Pouillou, merci.
Merci la Screech.